pour commencer par remercier la directrice du Roto et le professeur du lycée de DEF qui nous a gracieusement prêté la salle en dépannage, puisque nous n'arrivons pas à avoir un amphithéâtre de tableau Neruda absolument toutes les semaines. La prochaine séance aura lieu à nouveau à tableau Neruda dans l'amphithéâtre habituel. Juste aussi une chose que je voulais signaler, il y a des demandes qui nous sont revenues pour voir une bibliographie. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui peuvent consulter le site, s'ils l'ont déjà fait, pour la semaine dernière, j'ai fait un résumé de mon intervention et j'ai donné les indications bibliographiques dont je m'étais servi dans l'exposé. Je n'ai pas mis celles qui auraient pu être... les références qui ont pu être faites ensuite dans la discussion. Mais en tout cas, au niveau de l'exposé, normalement, vous avez cette bibliographie. Et bon, je ferai la même chose cette semaine pour mon intervention d'aujourd'hui. On va également essayer de mettre des séances enregistrées sur le site, puisqu'on a mis celle de Jean Robéro. On a mis du temps à y arriver, mais finalement, elle y est. Et donc, si tout marche bien, on devrait pouvoir mettre au fur et à mesure les séances de façon qu'elles puissent être, si vous avez envie de réécouter des passages, ou si vous en manquez une, on va voir un petit peu où on en est. Alors, j'aborde donc mon thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va être lisible. Ça va être lisible pour ceux qui viennent au premier rang. Ceux qui vont se cacher au fond de la salle ne verront rien. Bon, mais je vais très très peu m'en servir, c'est juste pour écrire de temps en temps des mots si c'est nécessaire. Donc, j'ai prévu aujourd'hui d'aborder les rapports entre la foi et la raison. Rapport complexe s'il en est. Et ça relève presque de l'inconscience d'aborder ça en une heure. Puisqu'il s'agit d'une très longue histoire qui commence, disons que ça va me faire aborder quand même la période du Moyen-Âge. Mais la période du Moyen-Âge, elle dure 1000 ans. Que ça oblige à revenir un petit peu en amont pour voir un petit peu les influences grecques sur la pensée chrétienne. Et puis que ça serait intéressant aussi de faire une ouverture pour voir comment les philosophes vont, à partir de la Renaissance, se situer en rupture par rapport à la théologie et par rapport à la foi, mais en questionnant peut-être aussi cette raison du XVIIe, qui n'a pas totalement évacué la foi pour autant, puisqu'on a ne serait-ce qu'un dieu des philosophes, qui n'est pourtant pas dieu de la foi non plus. Enfin bon, voilà, dès qu'on aborde cette question-là, ça devient tout de suite très compliqué. Alors je disais, bon, il y a 1000 ans de Moyen-Âge. Heureusement, il y a des périodes du Moyen-Âge où il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même des périodes creuses pendant ces 1000 ans. Ceci dit, je voudrais quand même réussir, évidemment pas, je ne pourrais pas être exhaustive, mais je voudrais pouvoir donner un petit peu un fil directeur qui permette de repérer un certain nombre d'étapes dans l'histoire qui unit donc et qui oppose la raison et la foi. Alors, la semaine dernière, j'ai abordé la naissance de la rationalité chez les Grecs, donc l'émergence du logos grec. Donc, il va s'agir maintenant de voir, finalement, à la limite, on pourrait le présenter en disant, finalement, en montrant comment le logos devient verbe, comment le logos grec devient verbe divin. Puisqu'en fait, le christianisme va finalement se nourrir de la pensée grecque, des philosophes de la pensée païenne, en fait. Il va y avoir une influence très forte de la pensée païenne sur le christianisme dans la patristique grecque et romaine, c'est-à-dire chez les pères de l'Église, ceux qui construisent en fait la doctrine du christianisme. Et en fait, cette influence, elle va perdurer, mais en même temps, la foi va d'une certaine manière avoir tendance à la foi chrétienne d'avoir tendance à récupérer la pensée des Grecs, la pensée païenne. En fait, la justification que donnent les chrétiens, les théologiens, les pères de l'Église, lorsqu'ils se réfèrent aux textes des anciens, c'est qu'en fait, il y a des éléments de vérité dans ces textes, du fait que les Grecs ont été éclairés par le Verbe divin, mais ne le savaient pas. Donc, ce qu'il y a de vrai dans la pensée, dans la philosophie grecque, c'est en fait une inspiration de source divine, mais comme les Grecs ne le savent pas et qu'ils n'ont pas eu la révélation, ils ne possèdent pas la vérité tout entière, et ça explique beaucoup des erreurs et des contradictions qui existent dans leur doctrine. Des idées comme celles sont développées, par exemple, par un père de l'Église qui s'appelle Justin, qui doit être au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, hein, qui développe abondamment une thèse de ce genre. Et ce genre de thèse va être relayée pendant toute cette histoire abondamment. Donc, à la fois, donc on a vu que la raison, elle s'était constituée en rupture avec la croyance, avec la tradition. Bon, mais cette raison, elle va être, d'une certaine manière, récupérée par la foi. Mais en même temps, ce ne sera pas chose aisée. Parce que la foi, en même temps, elle va s'inspirer de la pensée des anciens, de la philosophie grecque, mais elle s'en méfie aussi beaucoup. Parce que, justement, se tourner du côté des philosophes, c'est se tourner du côté d'une philosophie rationnelle qui risque toujours, à tout moment, de débrouiller la foi dans son fondement. Alors bon, on pourrait aussi montrer, si on entrait dans les détails, que les philosophes, disons, de la basse antiquité, c'est-à-dire au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ils ont eux-mêmes été influencés par la pensée chrétienne. Cette influence est moins forte que dans l'autre sens, mais il y a tout simplement le fait que ces gens vivent ensemble dans un monde commun, dans une société commune, et donc ils se croisent, ils discutent, ils se connaissent, et il y a donc des échanges qui font que finalement il y a... ça finit par brouiller aussi un petit peu les limites, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément facile, quand on regarde cette histoire, de déterminer ce qui viendrait de la seule raison, ce qui serait du seul ressort de la foi. Alors, il y a peut-être des étapes que je pourrais peut-être annoncer un petit peu pour voir où on va. D'une part, on pourrait montrer comment le platonisme va influencer très très fortement le christianisme. Mais en même temps, c'est un platonisme qui a évolué, c'est-à-dire ça n'est pas la lettre de Platon, c'est le néoplatonisme. Et par contre, la pensée d'Aristote, elle, va avoir une influence moindre, dans la mesure où elle est beaucoup plus contradictoire avec le principe de la religion monothéiste révélée chrétienne. Alors, il y a quand même des tentatives pour mettre tout ça en accord, et ça va nous mener à saint Augustin. Saint Augustin, qui est en fait la première grande philosophie chrétienne, qui va vouloir justement mettre en accord la foi et la raison, mais tout en posant la foi comme première. Ensuite, on va avoir donc une première étape, influence du platonisme, puis deuxièmement saint Augustin. Troisièmement, on va avoir quand même la fermeture de l'école philosophique d'Athènes en 529 par le pape, par l'empereur Justinien. Et en fait, on va avoir à ce moment-là l'interdiction finalement, on va avoir fermé les écoles de philosophie en Europe, avec l'idée que le croyant ne doit pas chercher à comprendre, il doit croire. Voilà, ça de fait, ça, on va avoir en gros du 6e au 8e siècle une période que les Lumières ont appelée d'obscurantisme, mais où justement. sciences, la logique, etc., sont fermées. Et celui qui va réagir à ça en s'en inquiétant, c'est Charlemagne, qui a eu cette idée folle de faire inventer l'école. Il ne l'a pas tout à fait inventé, mais il a rouvert les écoles. Mais quand il a voulu rouvrir les écoles, ben, il n'y avait personne pour le faire. Il manquait énormément de... Il n'y avait pas sous la main les gens qui lui auraient permis de le faire. Puisque c'est vrai qu'il y avait quand même un désert intellectuel en France, en tout cas, enfin, dans toute l'Europe continentale. Il a fait venir Alcuin, A-L-C-U-I-N, il a fait venir Alcuin d'Angleterre. Et ça, c'est au 8e siècle. Et en fait, en Angleterre, il y avait, comme ça a été évangélisé très tardivement en Angleterre, c'est-à-dire au 6e siècle, il y avait en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, enfin en Irlande, puis à Canterbury, il y avait des écoles où on avait maintenu la tradition d'un enseignement. Donc c'est Alcuin qui est venu s'installer à la fin du, ça doit être à la fin du 8e siècle, 792, un truc de genre là, qui est venu donc s'installer à la cour de Charlemagne, et donc il y a eu à partir de là le projet de rouvrir des écoles. Ça s'est fait très très lentement, mais on a vu petit à petit réapparaître au 10e, 11e siècle, 12e siècle en France, des philosophes chrétiens. Le plus connu qui représente cette période, c'est au 15e siècle, Saint Anselme de Canterbury. Hein. Saint Anselme qui produit une preuve de l'existence de Dieu, hein, et qui place la foi au fondement de toute pensée, hein, avec l'idée que cette foi doit être servante de la raison. Non, pardon, excusez-moi, que la raison doit être servante de la foi. Donc en fait, on ne peut se servir de la raison qu'à la condition de la mettre au service de la foi pour comprendre justement le contenu de la foi. Alors, entre-temps, et je reviendrai quand même en arrière, parce que c'est des choses que je voudrais développer un petit peu plus, entre-temps, il y a quand même un lieu où la tradition de la philosophie grecque s'est maintenue, c'est chez les Arabes. C'est dans la culture arabe, d'abord syriaque, puis ensuite arabe. Et au Moyen-Orient, en fait, il y a deux grandes universités en Europe, justement dans cette période d'obscurantisme qui nous frappe ici. Il y a deux grandes universités, c'est Bagdad et Bassora. Et là, on a des grands philosophes, des grands intellectuels. Et en fait, le premier siècle de l'Égypte, c'est le 7e, bon, du 8e au 12e siècle, on va avoir une vie intellectuelle très très riche chez les Arabes. Et on va voir que cette pensée arabe, qui est en fait aristotélicienne, puisque les Arabes ont hérité de la tradition grecque, qui va revenir en Europe par l'intermédiaire de l'Espagne et qui va avoir une influence énorme sur tout le XIIIe siècle, qui est le siècle d'or de la scolastique. Bon, alors après, on verra justement, on pourra évoquer justement la rupture qui va être faite avec la théologie, à travers l'humanisme et la Renaissance, et puis la naissance des temps modernes. Mais disons que j'ai quand même choisi de revenir quand même un petit peu sur cette période du Moyen-Âge, d'abord parce qu'il a été rejeté dans les oubliettes par les Lumières et par l'histoire de la philosophie, l'histoire positiviste qui a été faite au 19e siècle, puisque par exemple, non seulement on va considérer qu'il ne s'est rien passé pendant le Moyen-Âge, mais on va également nier totalement tout l'apport de la pensée arabe. Ernest Renan considère que la pensée arabe ne dit rien d'essentiel. Donc y a à la fois renvoi finalement du Moyen-Âge dans ce temps de ténèbres pendant lequel on n'a rien pensé du tout, et puis refus de reconnaître l'influence des Arabes sur notre pensée. Alors bon, ça fait en tout cas une cinquantaine d'années que on s'est remis à s'intéresser de beaucoup plus près à la pensée du Moyen-Âge, à la théologie, pour y voir peut-être aussi un lieu où ont été mises en place un certain nombre de questions qui sont celles de la philosophie moderne. Et puis il y a aussi eu donc dans ce mouvement-là des travaux qui ont été faits justement sur les philosophes arabes et l'influence qu'ils ont pu avoir sur notre pensée. Donc j'aimerais bien réussir avec le peu de temps que j'ai, mais bon, il y aura ensuite avec les questions et la discussion qui se mettra en place peut-être l'occasion de revenir plus précisément sur un certain nombre de choses. Alors si je reprends par le début, je disais en fait le logos il devient le verbe divin. En fait, dans le platonisme, il y a tout à fait de quoi, disons que le christianisme a tout à fait de quoi se sentir en accord avec tout un aspect du platonisme qu'il va revendiquer, qu'il va récupérer. Alors on a vu déjà quand même qu'il pouvait y avoir un point commun entre le rationalisme et le monothéisme, bien que leur discours ne se développe pas du tout de la même façon. Mais ce point commun, c'est qu'avec le logos, avec l'émergence de la rationalité chez les Grecs, il y avait la recherche d'un principe unique d'explication de l'univers, pour penser justement l'univers comme un tout. Donc ce principe unique, les chrétiens vont l'interpréter comme étant Dieu. Donc par exemple, l'idée la plus haute du monde intelligible chez Platon, qui est l'idée du bien, elle sera appelée Dieu. Il y a même des traductions encore du début du siècle, des traductions de Platon du début du 20e, où c'est le terme de Dieu qui est utilisé pour définir, pour désigner ce qui s'appelle dans le texte soit le bien avec un grand B, soit l'un avec une majuscule aussi, UN, hein, celui qui est l'un, l'unité fondamentale qui assure l'unité du monde, de l'univers. Alors, il y a donc déjà cet aspect-là qui fait que tout est là, finalement, pour que le christianisme ressaisisse hein, ce principe. On a également chez Platon, donc, comme on l'avait vu rapidement la dernière fois, un monde des idées, un monde intelligible, dont Platon dit que c'est un monde divin. Et ça, on va le retrouver aussi, puisque chez Platon, dans le livre de la caverne, hein, l'idée la plus haute du monde intelligible est comparée avec le soleil, qui est le principe finalement de toute vie et de toute intellection. Et ça, on va le retrouver dans toute la tradition chrétienne mystique, avec l'idée que, et dans toute la mystique chrétienne, l'idée que c'est en fait la lumière divine qui éclaire nos esprits. Donc, et on trouvera également l'idée, par exemple, que les idées de toutes choses sont dans l'entendement divin. Hein, alors que chez Platon, on avait vu que le monde des idées, au départ, c'était justement le monde des concepts, et qu'il s'agissait de construire les concepts pour comprendre les choses comme elles sont. Bon, et puis au niveau de la morale, hein, il va y avoir aussi des ponts tout à fait... La définition de la sagesse par Platon, de la justice, du bien, vont être tout à fait en accord avec ce que prône la religion. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le stoïcisme va également être très très bien récupéré par le christianisme. Alors, Platon, il a continué à être lu et commenté pendant toute l'Antiquité et jusqu'au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, les pères chrétiens, ce qu'ils connaissaient, ce n'était pas le texte de Platon directement, c'était les commentaires qui ont été faits par des platoniciens, puis par ce qu'on appellera le néoplatonisme au 3e siècle. Et il y en a un, justement, un néoplatonicien qui va avoir une influence très forte, c'est Plotin, qui écrit les Énéades, et qui en fait va va commenter des phrases clés des dialogues de Platon, mais qui va en fait interpréter Platon dans un sens mystique. Donc il va, tout l'aspect rationaliste, fondation du discours scientifique qu'on a pu voir la dernière fois, va être relégué, va être occulté ou évacué, et on va garder justement tout l'aspect mystique, avec cette idée justement qu'il s'agit de retrouver la lumière en fait qui est à l'origine de toute chose, puisqu'on a un principe d'émanation chez Plotin, c'est justement pas une création par un dieu créateur, mais c'est un principe lumineux qui est à l'origine de toute chose. Et en fait, cette lumière, c'est celle que nous devons retrouver en nous pour nous élever vers ce premier principe et s'unir à lui dans l'extase. Et trouver, s'unir donc avec, retrouver finalement notre origine lumineuse. Donc, je dis c'est très résumé, mais c'est pour montrer que comment finalement, à partir du logos grec, on va finalement avoir tous les éléments, à condition de faire le tri finalement dans ces différentes pensées, qui vont permettre de construire l'idée du dieu chrétien, en ressaisissant donc les principes de la pensée grecque. Alors celui qui va vraiment faire avancer les choses dans ce domaine-là, c'est saint Augustin au 4e siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin, qui au départ était un païen, puis qui va recevoir l'illumination, qui va se convertir au christianisme, et qui va vouloir mettre en accord la révélation, c'est-à-dire le contenu de la Bible, avec la philosophie, avec la philosophie des anciens, avec la philosophie grecque. Et si bien que, en fait, ce que saint Augustin va faire, c'est qu'il va chercher donc à unir la foi et la raison, mais en posant la foi comme première. C'est ce qui, chez saint Augustin, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, que je voir, c'est le credo ut intelligam. C'est-à-dire, je crois pour comprendre. Ça veut dire que le préalable de toute pensée, c'est la foi. Et alors, chez l'idée de saint Augustin, justement, c'est que par péché originel, l'homme s'est détaché, en fait, a perdu la vérité. Il s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné de la vérité, il ne peut pas la retrouver sans une aide active de Dieu. Donc, c'est la foi, finalement, qui illumine nos esprits, qui nous éclaire. Et même si nous ne le savons pas, nous pensons dans le Verbe divin, nous pensons dans la lumière divine. Alors, ça ne conduit pas saint Augustin à considérer qu'on doit s'occuper que de la vérité révélée et de l'exégèse de la Bible. Puisque saint Augustin, lui, il va quand même, dans la tradition de la philosophie grecque, développer l'idée d'un savoir du monde sensible. Et justement, quand nous cherchons, finalement, l'origine de notre pensée, c'est de toutes nos idées, ce sont les sensations. L'origine de toute connaissance, c'est la sensation. Sauf que, justement, si on s'en tenait à la sensation, on ne pourrait pas s'accorder. Donc, celui qui réalise l'accord entre tous nos esprits, justement, c'est Dieu qui, par sa lumière, nous communique alors justement j'allais dire nous communique la vérité. En fait, dans sa lumière, nous pouvons chercher la vérité. Et puis ensuite, il y a aussi une connaissance mystique qui consiste à aimer Dieu lui-même, c'est-à-dire à regarder la source même de toute lumière et à chercher à la comprendre. Et donc on maintient chez saint Augustin la distinction entre une philosophie qui serait une connaissance de l'homme et du monde, et puis une théologie qui est la connaissance de Dieu même, c'est-à-dire de la source de toute pensée et de toute lumière. Alors, ce credo ut intelligam, en fait, il sera repris dans la théologie chez les scolastiques. Mais chez les scolastiques, on aura vraiment l'idée que la raison doit essentiellement chercher à comprendre le contenu de la foi. Donc, c'est pour ça qu'ils diront que la raison est servante de la foi. Puisque elle doit permettre aux croyants qu'elle est limitée, l'objet de sa croyance. Alors, en fait, cette première philosophie chrétienne qu'on va avoir avec saint Augustin, elle va avoir une influence durable sur l'Église, hein, puisque jusqu'au XIIe siècle, disons que la pensée chrétienne, elle est augustinienne, hein, donc il y a une influence platonicienne, néo-platonicienne et augustinienne. Et c'est donc l'augustinisme qui est premier. Et c'est justement cette influence augustinienne va se conjuguer avec une autre influence qui va être l'influence arabe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors justement, à propos des Arabes, je me dis que je suis obligée de faire des courts-circuits, hein, d'essayer d'aller vraiment à l'essentiel en si peu de temps. Mais pour la pensée arabe, justement, ce qui est intéressant, c'est que il y a donc dès le 8e siècle, chez les Arabes, une volonté de mettre en accord la raison et la foi, mais qui va conduire finalement à donner une place à la raison beaucoup plus grande que ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, c'est toujours délicat d'en parler parce que, en fait, les intellectuels arabes, la vie intellectuelle d'un monde arabe a pu se développer parce qu'en fait, les califes, ils aimaient s'entourer dans leurs cours de savants, de philosophes, de poètes. Et donc, il y avait, je dirais, quand même une tolérance à l'égard. D'ailleurs, l'idée de tolérance, c'est une idée qu'on retrouve chez tous les grands penseurs arabes de l'époque. Il y avait donc une tolérance à l'égard de ces philosophies qui prenaient quand même pas mal leur distance par rapport à la lettre. Et d'ailleurs, il y a eu aussi, à l'intérieur du monde arabe, des réactions justement face à ces libres penseurs. Entre autres, on voit apparaître c'est le 9e siècle, hein, 9e, 10e siècle, on voit apparaître la théologie spéculative musulmane, et ça correspond justement à l'origine de la pensée sunnite, hein, qui a voulu justement revenir à, disons, à des articles de foi pour combattre justement cette place grandissante que prenait la libre pensée au Moyen-Orient principalement. Alors, en fait, les textes grecs qui sont arrivés dans le monde arabe par l'intermédiaire des syriaques, donc il y a eu des traductions syriaques de textes grecs qui ensuite ont été traduites en arabe. Mais alors, les premiers libres penseurs arabes dont on parle dans les histoires de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, ils s'appellent les Mutazilites. Hein. Et eux, c'est pas des lecteurs d'Aristote, cela. Mais ils vont avoir, c'est un mouvement qui va durer deux siècles au moins, hein, puisque il apparaît au 8e, et à travers le 8e, le 9e et le 10e, il va se développer. Le mutazilite, en fait, c'est un terme. Je ne me rappelle plus du terme arabe qu'il note, mais ça signifie qu'ils sont en rupture par rapport au dogme. Hein, donc, ils vont se couper en fait du dogme et développer justement une pensée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont en fait soutenir l'idée qu'il y a un libre arbitre, qu'il y a une liberté humaine, que l'homme doit rationnellement choisir entre le bien et le mal, et que nous serons punis et récompensés en fonction de nos choix, mais dans la mesure où nous pouvons être tenus responsables de ces choix. Bon, ça c'est une idée qui n'existe pas du tout, qui n'a pas d'identité du tout dans le monde chrétien à cette époque-là, hein, qui est contre laquelle justement ceux qui ont fondé le sunnisme vont réagir. Hein. Je crois que c'est Al-Ashri hein, qui fonde l'école sunnite. Et puis surtout, il va y avoir Al-Ghazal, qui est un nom plus connu, qui va justement s'attaquer finalement aux mutazilites hein, pour remettre en place l'idée finalement que c'est l'imam qui sait ce que sont le bien et le mal, et que le croyant justement n'a pas à se servir de sa raison pour le déterminer par lui-même. Donc finalement, on retrouve par rapport à la religion musulmane un petit peu le même type de condamnation que ce qu'on a eu précédemment dans le monde chrétien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la raison se met à prendre un petit peu trop d'autonomie, finalement, et qu'elle devient dangereuse pour la foi, elle va être une remise au point qui va être faite par les imams, par l'Église, etc. Alors, d'ailleurs, ensuite, c'est une des raisons, d'après ce qu'on rapporte, hein, pour lesquelles la pensée arabe, la philosophie arabe, la falsafa, hein, comme ils l'ont appelée, va émigrer en fait du Moyen-Orient vers l'Espagne. Et il va y avoir à ce moment-là un centre intellectuel très très riche en Espagne, et c'est de là que nous viendrons les traductions des textes d'Aristote. Mais alors sinon, si on reste un petit peu au Moyen-Orient, il y a également une école qui va se développer, qui s'appelle les Frères de la Pureté, et ce sont des penseurs qui sont à la fois mathématiciens, philosophes, médecins, et qui vont vouloir écrire une énorme encyclopédie de tous les savoirs, qui se compose de 51 volumes, et ils sont assez nombreux, donc ils se partagent le travail. Et chez ces philosophes-là, on va aussi avoir l'idée que l'homme doit se servir de sa raison. Et ils vont même jusqu'à dire que si la foi et la raison entrent en contradiction, c'est plutôt la raison qui doit l'emporter. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir peut-être mal interprété le texte. C'est-à-dire que si la lecture du Coran entre en contradiction avec la raison, c'est qu'on a mal compris le sens, et c'est la raison qui doit nous permettre de saisir effectivement le sens du texte. Des prises de position qui sont hérétiques. Mais en même temps, à cette époque-là, donc, une tolérance à l'égard, une tolérance relative, en tout cas à l'égard de ces pensées qui ont pu se développer. Alors il y a différents philosophes qui étaient très très connus justement dans ce Moyen-Orient, qui ont enseigné à Bagdad, qui est la Sorah. Vous avez Al-Kindi, vous avez Al-Farabi. Le plus connu, c'est Avicenne. Et Avicenne, qui était à la fois un mathématicien, médecin, philosophe, savant, poète, qui lui était un aristotélicien. C'est-à-dire qu'il a fait en fait un commentaire des œuvres d'Aristote. Alors, si on regarde de plus près ce qu'est l'aristotélisme d'Avicenne, c'est un aristotélisme qui est très, très teinté de néoplatonisme, hein, et qui conduit par exemple à des thèses selon lesquelles qui sont difficilement conciliables avec la foi, et Avicenne privilégie la raison. Par exemple que le monde est éternel, donc si Dieu l'a créé lui-même, il est éternel. Dieu accompagne le monde de manière éternelle. Il va y avoir une approche de la nature et l'idée justement qu'on doit pouvoir chercher à comprendre la nature. Donc j'ai un petit peu perdu le fil par rapport au néoplatonisme, parce qu'à force de résumer. D'en dire très très peu, c'est pas toujours facile de rester absolument précise ou exacte. Alors, après Arsen, ce mouvement, cette effervescence intellectuelle, quand même, elle va se transporter en Espagne, elle va émigrer en Espagne. En Espagne, où on a ce qu'on a appelé l'âge d'or, hein, c'est-à-dire une période où musulmans, juifs et chrétiens ont cohabité. Tout ça, ça a duré jusqu'au XIVe siècle, où il y a eu les Diderot catholiques, et à ce moment-là, on a converti de force les juifs, ou alors ils ont émigré. Et puis sinon, on a renvoyé les Arabes au Maghreb. Mais jusque-là, donc, il y avait une cohabitation. Et alors, donc, le grand philosophe espagnol, arabe, espagnol, c'est Averroès. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Averroès qui lui va avoir une influence énorme et qui va beaucoup inquiéter l'Église à l'époque. Averroès, en fait, il a écrit, alors lui, vraiment un commentaire minutieux de toute l'œuvre d'Aristote. Et en voulant débarrasser justement l'aristotélisme, enfin l'Aristote qui avait été transmis, de toute influence platonicienne. Mais en se rendant bien compte que le platonisme, en fait, il était beaucoup plus présentable pour la religion, beaucoup plus en accord avec les principes du monothéisme, avec un dieu créateur, etc. Et que l'aristotélisme, finalement, remettait en question beaucoup plus en profondeur la foi. Alors, à l'époque, on avait en Europe encore très très peu de textes d'Aristote. Effectivement, là, on rapportait un Aristote qui n'était pas l'Aristote à la lettre. Alors, Averroès, lui, il en est arrivé, justement, voulant une fois de plus mettre la foi et la raison en accord. Il en est arrivé finalement à se rendre compte que la plupart du temps, il était en contradiction l'un avec l'autre. Alors, on a développé une thèse, mais qui est pas tout à fait celle d'Averroès, mais à travers l'Europe à l'époque, on a parlé de la double doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être valables, enfin, qui peuvent être vraies au regard de la foi pour le théologien, mais qui ne sont pas au regard de la raison pour le philosophe. Bien que finalement, on en arrive à dire. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs vérités, ça veut dire qu'il y a une même vérité qui ne s'exprime pas de la même façon dans le discours théologique et dans le discours philosophique. Et donc, il y a, si vous voulez, une tentative pour maintenir la foi et la raison ensemble, et puis cette difficulté qui vient du fait que, de fait, elle s'oppose et qu'elle elle mène finalement à des contradictions quasiment insolubles. Ceci dit, il me semble qu'Averroès dit que quand il y a contradiction au niveau de la lecture du texte avec ce que dit la raison, on doit quand même s'en remettre à la foi. C'est-à-dire qu'il y aurait. Ceci dit, l'averroïsme s'est répandu en Europe et ça conduit en fait à une vague de rationalisme. Parce que c'est l'aspect rationaliste de l'averroïsme qui a vraiment. Qui s'est répandu et qui a eu un succès énorme. Au point que ça. Vraiment, bon, parce qu'il y a d'autres traducteurs espagnols qui se sont mis à traduire les textes d'Aristote et on s'est mis. Au XIIe siècle, on a disposé de quasiment la totalité des œuvres écrites par Aristote. On est même revenu au texte grec, enfin, directement, sans passer par l'arabe, le syriaque, etc. Et finalement, ça a inquiété l'Église véritablement. Hein, puisque, bon, il y avait quand même, j'avais présenté aussi très rapidement la dernière fois, Aristote comme le père de toutes les sciences. On a chez Aristote, on n'a pas un dieu créateur, chez Aristote. On a l'idée que la nature a en elle-même le principe de son mouvement. Donc toute thèse, et puis une critique de la théorie platonicienne des idées aussi chez Aristote. Il n'y a pas d'idées séparées, puisque les choses qui sont à connaître, ce sont les individus singuliers existants. Et il récuse absolument tout le monde des idées. Il n'y a pas d'argument intelligible chez Aristote. Et il y a par contre une logique de pouvoir permettre de mettre en place un discours de science qui permet d'expliquer savoir, enfin, tous les domaines que la science peut prendre pour objet. Donc, à cette époque-là, le pape, alors je ne sais plus quel c'est, je crois que c'est un Benoît, je ne suis pas sûre. À cette époque-là, le pape va interdire en fait la traduction des textes d'Aristote, leur lecture. Il va interdire la lecture des textes d'Averroès pendant. Alors, ça, c'est au 12e. Mais en fait, là, bon, ça se répand comme une traînée de poudre, on se passe sous le manteau. L'interdiction fait que ça produit toujours le contraire de ce que ça veut, les interdictions. Et puis là, il y a une pensée qui se développe et qu'on ne peut pas vraiment réprimer. En plus, il y a la ville de Toulouse qui ne tombe pas sous l'arrêté. Donc, dans l'université de Toulouse, on continue de plus belle à traduire les textes d'Aristote et à faire circuler les textes d'Averroès. Et d'ailleurs, ils s'en font de la pub. À Toulouse, on peut lire Aristote. Enfin, résultat, le pape est obligé finalement de céder et on va. Il va finalement confier la traduction, on va confier la traduction des textes d'Aristote à des gens fiables. Et on va accepter sa lecture, mais c'est, disons, une tolérance obligée, d'une certaine façon. Et alors là, ça va avoir une influence très très forte sur la scolastique, c'est-à-dire l'université théologienne au XIIIe siècle. L'université, ça désignait en fait. Dans une ville, tous les professeurs et les élèves qui suivaient un enseignement. Donc, ce n'était pas forcément un lieu, mais c'était une communauté à l'intérieur d'une ville. Alors, il va y avoir donc, au XIIIe siècle, la naissance des grandes universités, et puis, l'apparition des grandes universités, et puis, cette influence aristotélicienne, on va trouver tout autant sur les franciscains que sur les dominicains. Et il y a un dominicain très très célèbre, qui est saint Thomas d'Aquin, qui va justement écrire une somme contre les gentils. La somme contre les gentils, c'est les arabes, c'est les musulmans, c'est les non-croyants, mais en fait, la somme contre les gentils, justement, elle vise à... En fait, c'est en vue de convertir les musulmans à la foi chrétienne. Il y en a beaucoup qui se préoccupent de ça à ce moment-là. Et Saint Thomas d'Aquin, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va récupérer Aristote contre les philosophes arabes. C'est-à-dire qu'il va mettre complètement cette lecture d'Aristote en accord avec le catholicisme. Alors, ce qui est quand même intéressant chez Saint Thomas d'Aquin, c'est que en fait, il va être mené à distinguer ce qui relève de la théologie pure et ce qui relève de la philosophie. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses que la raison ne peut pas comprendre. Par exemple, le mystère de la Trinité, que Dieu est un et trois, ou trois en un, enfin bon. Mais il y a d'autres choses que la raison peut comprendre. Donc, pour les choses que la raison peut comprendre, on va développer en fait une philosophie qui est tout entière issue en fait de la lumière naturelle, mais qui va justement servir à comprendre le contenu de la foi. Parce que quand même ce qu'affirme Saint Thomas, c'est que si le croyant peut comprendre ce que croit, c'est encore mieux. Donc l'idée, c'est pas que j'ai besoin de comprendre pourquoi, parce que je crois, credo. Mais croyant, rien ne m'empêche de me servir de ma raison pour retrouver par les lumières de la raison le contenu de ma foi. Donc il va y avoir à partir de là un certain nombre de. Enfin, Saint Thomas, par exemple, va en venir à prouver rationnellement l'existence de Dieu. En partant du monde naturel, des choses sensibles, et en réutilisant des arguments aristotéliciens. Donc les cinq voies de saint Thomas d'Aquin pour prouver l'existence de Dieu rationnellement, ce sont des idées, des raisonnements qui va réunir, qui consiste à chaque fois à dire les choses sensibles n'ont pas en elles-mêmes la raison de leur existence, mais on doit, si on veut comprendre le monde sensible, remonter à une cause première, qui en est la cause, qui en est l'origine, qui soutient toute chose dans l'existence, etc. Donc les choses sont en mouvement, mais elles n'ont pas en elles-mêmes le principe de leur mouvement. Donc il faut un premier moteur qui leur donne le mouvement et l'origine. Les choses singulières sont contingentes. J'existe, mais j'aurais pu ne pas exister. Et il en est de même pour toutes les choses créées. Donc pour que le monde ait une nécessité, bien, il faut renvoyer à une cause première qui soutient toute chose dans l'existence. Voilà, il y a cinq voies comme ça qui permettent de... Il y a aussi une théorie, enfin une thèse qui dit que la série des causes ne peut pas être... Tout est lié par des chaînes, une chaîne de causes et d'effets, mais la série des causes ne peut pas être infinie. Donc j'en viens nécessairement à une cause première qui vient clore la série et qui la fonde. C'est aussi l'ordre harmonique de l'univers qui ne peut pas être l'objet du hasard et qui donc nous oblige de conclure à une intelligence première qui en est la cause. Puis vous avez la preuve aussi par la perfection. Enfin, c'est-à-dire que quand on juge les choses, c'est toujours par rapport à une mesure absolue. Donc on dira qu'une chose est belle ou bonne ou ordonnée par rapport à une idée du bien absolu ou de la beauté absolue ou de l'ordre parfait. Et cet ordre ne peut exister qu'en un être qui est lui-même parfait. Bon, et ensuite, il va montrer que puisque les choses sensibles existantes... En fait, il va montrer qu'elles ne tiennent pas l'existence, elles ne peuvent pas tenir l'existence d'elles-mêmes. Donc, il y a un être qui leur donne l'existence, et cet être, il est pur exister. Sa nature, c'est d'exister. Donc, on a ici, disons, une espèce de métaphysique, en fait, c'est-à-dire une représentation métaphysique du monde qui part des objets de la nature, qui cherche à comprendre leur raison d'être, et qui finalement conduit à l'idée de Dieu comme fondement premier. Donc on a... Alors, il y a d'autres choses que la raison ne peut pas trancher. Par exemple, est-ce que le monde est éternel ou pas? Aristote dit qu'il l'est, Saint Thomas pense que non, mais on ne peut pas le prouver. Parce qu'il n'y a aucun élément qui nous permette, au niveau de l'expérience, de conclure à une telle idée. Donc Saint Thomas d'Aquin, il va avoir... été critiqué aussi par d'autres théoriciens, mais il va réaliser ce coup de force finalement de complètement réconcilier finalement la raison et la foi catholique, la foi chrétienne, en développant finalement une espèce de métaphysique ou une ontologie, c'est-à-dire une science de l'être, comme on reprend dans l'expression d'Aristote, à l'intérieur même finalement du catholicisme, à l'intérieur de la pensée catholique. Donc on peut considérer que saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment l'apogée de cette pensée chrétienne. Mais peut-être aussi que l'effort justement que l'Église a fait pour endiguer justement cet apport rationaliste de la pensée aristotélicienne, n'a pas complètement réussi, parce que de fait la raison a repris ses droits. Et saint Thomas d'Aquin, finalement, même s'il pense une raison au service de la foi, n'empêche que il développe une métaphysique, il développe rationnellement des arguments, il s'appuie sur la logique aristotélicienne, sur sa théorie de la démonstration, sur tout le corpus aristotélicien. Si bien que finalement, il fait entrer, on peut dire à la limite, il fait entrer le loup dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où la raison revient sur le devant de la scène, elle va s'émanciper. Et de fait, le XIVe siècle sonne déjà le glas de la théologie qui était naissante. La grande période de la théologie du Moyen Âge. C'est 12e, 13e, et le temps qu'elle se mette en place, et puis que finalement, elle... soit remise en question. Alors au XIVe siècle, on va avoir il y aura beaucoup moins de monde, c'est un siècle qui va être moins riche que le XIIIe, mais on va avoir par exemple Guillaume de Cam qui va protester justement contre ce mariage abusif de la raison et de la foi, qui va pouvoir les séparer à nouveau, mais d'une certaine manière aussi pour sauver la foi. Donc il va dire en fait la raison, alors il est aristotélicien aussi, c'est-à-dire que chez Aristote, l'éthique dont nous servons n'existe pas dans un monde intelligible, mais ce sont des abstractions que nous avons construites. Donc les abstractions sont des idées générales qui permettent de rassembler les choses sous des concepts, et c'est un produit, c'est l'homme qui produit, c'est une universelle, d'ailleurs, une querelle des universaux au Moyen-Âge, au XIVe siècle, parce qu'il y en a qui vont soutenir l'idéalisme platonicien, et puis d'autres qui vont, à l'instar de Guillaume de Cam, vont dire que, en fait, les idées dont nous savons ne sont que des abstractions. Mais du coup, Guillaume de Cam, qui va avoir une influence très forte de ce point de vue-là sur la modernité, ce qu'il va dire, c'est que finalement, la raison, elle n'a affaire qu'à l'improbable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître les choses véritablement, puisque nous n'avons en fait que des abstractions. Et il n'y a donc pas de lien naturel entre l'idée et la chose qu'elle désigne. Résultat, la seule vérité que nous puissions atteindre, c'est dans la foi qu'elle se trouve. Donc on a, si vous voulez, très souvent on retient du Guillaume de Cam tout le travail qu'il a fait justement dans la querelle des universaux sur l'abstraction, mais en fait, on oublie parfois de dire que c'était pour sauver la foi. Parce que justement, la raison ne peut pas avoir accès aux vérités de la foi. Ce qu'on voit aussi au XIVe siècle, c'est qu'on voit apparaître au XIIIe, XIVe, les grands mystiques chrétiennes qui sont hérétiques par rapport à l'Église, puisqu'elles vont promener finalement une relation directe à Dieu. Et ça serait aussi trop long de partir dans cette direction. Donc on a eu cet effort qui a été fait pendant finalement tout le Moyen-Âge, à travers la pensée arabe et à travers la pensée chrétienne, pour concilier la foi et la raison, mais tout en étant sans cesse conscient du danger que la raison représentait pour la foi. Il n'en demeure pas moins que l'histoire du christianisme est complètement imprégnée de l'apport justement platonicien et aristotélicien. Dans le monde arabe, à partir du XIIe siècle, ça s'essouffle. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus, qui se gros, ils ne sont pas relevés des croisades et de Genghis Khan, coup sur coup. Ça a complètement laminé la riche civilisation du Proche-Orient. Les universités de Bagdad et de Bassora ont été complètement rasées. Tout a été complètement détruit. On a perdu énormément de manuscrits, de choses très précieuses en fait. À la fois du fait des croisés et puis ensuite Genghis Khan qui a fini le travail. On en arrive en fait à une nouvelle rupture qui va avoir lieu. Je dis une nouvelle rupture parce que j'en avais un petit peu parlé la semaine dernière. Finalement, à chaque fois que le rationalisme s'est vraiment installé, ça a été à une période de bouleversement culturel qui touche tous les aspects de la vie des hommes, politique, sociale, économique, artistique, etc. Et donc en rupture avec la croyance. On a ça chez les Grecs avec l'émergence du logos. Et dans une moindre mesure, un nouvel épisode de ce genre avec la Renaissance, où en fait, il va y avoir justement à nouveau une rupture avec la foi qui correspond à un déclin de la puissance politique de l'Église et la naissance de la bourgeoisie. On va voir apparaître également petit à petit pendant la Renaissance la conception moderne du politique, avec Machiavel, puis ensuite le contrat social avec Hobbes au XVIIe. Et finalement, on a un mouvement, d'ailleurs, ça s'appelait la Renaissance. être, hein, et que de fait, ce qui s'est élaboré, bah, par exemple dans la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, va avoir une influence très forte aussi sur la fondation de la modernité. Que tous les grands rationalistes du XVIIe siècle, ils sont pétris de scolastique. Et même quand Descartes veut douter de toute chose, il ne se rend pas compte à quel point, une fois qu'il a reposé le cogito, il ressaisit finalement un discours qui est complètement, pétri de concepts scolastiques. Alors justement, ça c'était dans ce que j'avais déjà dit tard, dans ce que j'avais annoncé. Justement, on a présenté le siècle, le XVIIe siècle, comme le siècle de la raison triomphante, avec le fondement donc, de la modernité, du rationalisme, de la science moderne, l'apparition de l'individu, de la subjectivité qui est au fond du discours, etc. Bon, mais en même temps, j'ai plus tellement le temps, mais je pensais que c'était intéressant de venir montrer ce qui reste impensé finalement au sein même de ce rationalisme et qui est finalement un héritage du Moyen-Âge, un héritage de la pensée de la théologie, de la pensée chrétienne. Et justement de ce point de vue-là, je pensais que ça pouvait être intéressant d'aborder le Dieu des philosophes, poser la question qu'est-ce que c'est que ce Dieu des philosophes qu'on va retrouver dans toutes les grandes théories rationalistes du XVIIe. Descartes prend rationnellement l'existence de Dieu par deux fois dans les méditations métaphysiques. Chez Leibniz, chez Spinoza, on a un système du monde qui se fonde justement sur Dieu. Alors chez Spinoza, c'est une forme de, disons, c'est un Dieu qui est immanent, hein, par la suite il sera interprété comme une forme de panthéisme. Mais n'empêche qu'il reprend la définition thomiste. Dieu, c'est l'être dont l'essence enveloppe l'existence. Hein, c'est-à-dire un être qu'on ne peut pas concevoir comme non existant. Alors c'est vrai que ce Dieu de Spinoza, c'est la nature, puisqu'il est présent en toute chose, mais il reprend la définition de saint Thomas, en fait. Alors, travailler sur Dieu des philosophes, mais ça justement, bon, c'était des choses sur lesquelles on peut revenir après dans la discussion, ça peut quand même consister à se demander que, pourquoi, alors qu'ils ont rompu avec la foi, est-ce qu'ils le maintiennent, ce Dieu? Et comment est-ce qu'ils arrivent à concilier finalement cette raison triomphante avec, avec un Dieu qui structure complètement toute la pensée du XVIIe siècle? Alors, c'est vrai qu'on l'a appelé le Dieu des philosophes parce qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu de la religion. Peut-être que justement il renoue avec le principe qu'on avait chez les Grecs, le principe d'explication unique. C'est-à-dire que le Dieu des philosophes au XVIIe, il permet de penser le monde comme un système. Et il permet d'assurer, en fait, l'adéquation entre la pensée et la réalité. Quand je pense et quand je me sers de ma raison pour connaître le monde, je peux avoir la certitude, je peux construire finalement un savoir certain, parce que c'est le même Dieu qui est à l'origine de ma raison et du monde. La logique dont je me sers, c'est la logique dont Dieu s'est créé pour créer, s'est servi pour créer le monde, etc. Donc on a à ce moment-là un Dieu qui vient assurer l'adéquation de la pensée et du réel, finalement, et qui permet de penser le monde comme un système. Alors ça peut me conduire vers des questions que j'aborderai en avril. Hein. Le problème, justement, c'est que si on a une raison émancipée de la foi et de la croyance religieuse, sur quoi est-ce qu'elle va pouvoir fonder la vérité? Sur quoi elle va pouvoir fonder les valeurs? Sachant justement que le fondement de ces valeurs vient à manquer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Et d'ailleurs, les philosophes du XVIIe, ils n'ont pas renoncé tout de suite, justement, à l'idée d'un Dieu qui, finalement, est soit un fondement, soit une garantie du savoir et de la morale. Et bon, alors, celui qui montrera justement le rôle de ce Dieu, c'est Kant. Hein. Quand il dit « je ne peux pas prouver l'existence de Dieu », mais en tout cas, c'est une idée dont la raison a besoin pour fonctionner, parce que sinon, elle ne peut pas penser le monde comme système, elle ne peut pas lui donner sens, et il n'y a pas d'action morale possible. Parce qu'une fois que Kant a dit ça, la porte est ouverte pour l'annonce du XIXe siècle, qui proclamera à travers certains de de ces philosophes et écrivains que Dieu est mort, ce qui complique énormément nos affaires. Ça complique grandement les choses parce que justement, il n'y a pas de vérité préétablie sur laquelle on puisse s'appuyer. Et donc, finalement, le rationalisme du 17e, pour pouvoir accorder la confiance, pour pouvoir accorder une telle confiance à la raison, il a besoin encore finalement d'une garantie qui permette justement de donner entièrement confiance à la raison. C'est-à-dire, au cœur même de la raison viendrait se loger finalement un élément de foi qui, quand il vient à manquer, justement, nous conduit à un questionnement beaucoup plus angoissant finalement sur l'existence, et c'est celui qu'on verra surgir au 19e siècle. Bon, ça, c'est les choses, c'est ce que je travaillerai au mois d'avril, dans la deuxième série de courtes que j'ai prévues. Je m'arrête pour aujourd'hui, j'espère que ça n'a pas été trop abscon. Et bon.